Bonjour, chers amis auditeurs. Je suis si heureuse de partager ces quelques heures d'émission avec vous. Nous voici entrés dans le carême. Le Seigneur ne veut pas que l'on déchire le vêtement de nos actes extérieurs, car c'est l'intérieur de la coupe de notre être qu'il veut purifier pour y faire sa maison. Que ce temps liturgique béni, qui doit nous conduire au Père par Jésus-Christ, soit pour nous l'occasion de déchirer nos passions adultères, de déchirer notre cœur qui trop souvent refuse ou trahit l'amour de notre Jésus. Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre petit moi égoïste, pour qu'il puisse nous revêtir de son amour à lui, Christ, un amour qui va jusqu'à aimer nos ennemis et jusqu'à leur faire du bien. N'oublions pas que notre langue, ce petit organe délicieux que Dieu a placé au milieu de notre visage, notre langue ne doit servir qu'à louer Dieu, à bénir la vie et nos frères. Là est le chemin de la paix véritable, la paix de Dieu. Confions-nous à la Reine de la paix, la très sainte Vierge Marie, afin qu'elle nous couvre de ses attributs divins. Depuis l'origine du monde, le sang coule, et l'encre des plumes aussi, au nom de la paix. La paix du Liban, la paix dans le monde, ne dépend-elle pas finalement de la paix en chacun de nous? Si, bien sûr, la paix de notre cœur. Alors, l'heure est venue pour chacun de nous, chrétiens surtout, de faire un examen de conscience. Qu'avons-nous fait de Jésus-Christ? Jésus-Christ, entre autres, fondateur du christianisme, religion mystique par excellence. Beaucoup de nos contemporains pensent qu'être chrétien, c'est faire de la morale. Quant à la prière, ils l'assimilent à des exercices répétitifs, aussi inutiles qu'ennuyeux et vains. Et cependant, les hommes, partout, ont soif de mystiques et sont la proie de gourous douteux, leur proposant un syncrétisme superficiel, voire un orientalisme ou encore un sentimentalisme de bazar. N'est-ce pas là notre responsabilité, notre faute même, si la plupart d'entre eux recourent au Tao ou au Zen pour redécouvrir des vérités qui font partie du christianisme dès l'origine. Pourquoi n'est-on pas fier d'être chrétien? Pourquoi n'est-on pas fier de notre religion chrétienne et de notre Sainte Église? Pourquoi cache-t-on aux hommes que le christianisme est la plus achevée des religions orientales, et que la mystique est aussi nécessaire à l'homme, et peut-être encore plus, que la science? Car le secret de la vie, la paix intérieure, on ne le trouve pas dans la consommation, même si le pain nous est nécessaire. On ne le trouve pas non plus dans l'action, même si l'on doit agir pour faire reculer l'exploitation de l'homme par l'homme. Le savant, le politique, le consommateur ne sont que les avatars d'un être tellement plus profond. La science rationnelle, l'action, la possession signifient, à vrai dire, un désir qui les dépasse. Plus qu'homo faber, c'est-à-dire artisan, ou plus encore qu'homo sapiens, c'est-à-dire intelligent, l'homme est un mystique. C'est-à-dire que ses racines sont en réalité religieuses et artistiques, donc suprarationnelles. Après la satisfaction de ses besoins, surgissent des besoins plus profonds. Il y a 21 siècles, Jésus constatait que l'homme ne vit pas seulement de pain. Les psychanalyses les plus réussies ne guérissent jamais l'homme de l'angoisse fondamentale. Les pères de l'Église, pour qui la prière est la vie même, ont découvert cette vérité. Les oiseaux volent, les poissons nagent, les hommes prient. Et plus tard, certains priants en islam reprendront cette idée en signalant que le premier cri du nouveau-né et l'ultime soupir de l'agonisant forment et proclament le nom divin. Cette recherche de la paix vise à faire redécouvrir les sources mystiques du christianisme en donnant la parole à des hommes ivres de Dieu et qui, après Dieu, considèrent leurs frères comme Dieu, un Dieu vivant, non plus empereur du monde, mais l'amour crucifié. Ces témoins sont nos pères ou mères dans la foi, martyrs ou mystiques, moines des montagnes ou moines du désert, moines du Liban, évêques, prêtres, laïcs dans le monde, tous forts au sein même de leur communion, tous porteurs de la bonne nouvelle qui peut toujours aujourd'hui même nous atteindre, au plus profond de notre désespoir. La descente du Dieu fait homme dans la mort et dans l'enfer pour triompher de toutes les formes de la mort et de l'enfer. Jésus le Christ qui se livre au mal pour libérer l'amour. Et d'autre part, je voudrais que cette réflexion soit aussi un hommage à mon feu père spirituel, le père abbé Jean Slim, icône privilégiée de ce saint amour qui m'accompagna sur le chemin, dans un combat spirituel plus dur que la bataille des hommes. Et enfin, je veux crier aux Libanais dont j'ai épousé la destinée douloureuse depuis 22 ans, cet élan d'amour mystique, de métanoïa, c'est-à-dire de transformation de notre cœur de pierre en cœur de chair, en cœur du Christ, est possible aujourd'hui, voire urgente. Devenons tous ensemble des êtres de prière, de lumière et de paix pour construire un Liban souverain, terre d'amour et de pardon. Thank you.
fou de Dieu, terre d'Orient, tu es béni, et de ton sein. Terre de sang versée par l'homme, terre du Liban, tu gémis en la coupe jusqu'à la terre de pardon, usée d'attente, terre meurtrie, au cœur sans vie, tu vas quitter la nuit. Ô notre Père Saint-Maroux, toi qui repos, Akfaraï Batrou, tu nous invites à te suivre.
Ô Saint-Maroux,
calme, repos, paix, solitude. C'est un peu la définition de l'ésychia, mot grec, signifiant le retrait qui se coupe du mal, la recherche de la véritable quiétude, la véritable paix de Dieu. Vis dans ta cellule et elle t'apprendra tout, dit un adage. La cellule du cœur, bien sûr. Un retrait régulier du monde, un arrêt dans nos multiples actions, aide l'homme à conscientiser à la fois son néant de créature et l'amour qu'il a tiré de rien. L'homme sera foudroyé par cette découverte profonde, ce savoir aimer. Et à travers son petit moi, il rencontrera l'autre, il compatira aux autres, il se laissera saisir par la misère du monde. Il ne gardera plus rien pour lui, il se livrera tout entier pour l'amour du prochain. La compassion accomplit et vérifie l'immolation par amour. Oui, oser s'arrêter. Plonger en soi-même, dans le cœur profond. Habiter son être intérieur de plus en plus. N'est-ce pas là la première réconciliation qui permettra toutes les autres? Cette plongée en soi, hors du tumulte de nos actions, permet à notre cœur-esprit de devenir le lieu, l'endroit d'une métanoïa, d'un retournement que l'Évangile associe à l'approche du royaume de Dieu. Notre cœur qui devient le sanctuaire de l'ultime. Nous verrons bien dans les textes que j'ai retenus pour nous guider sur cette voie de la paix, que le lieu du cœur est un lieu ouvert. Il y a toujours une entrée et toujours une sortie. L'issue de l'action est la prière. L'issue de la prière est la contemplation, et l'issue de la contemplation est la création, l'enfantement du créé, le passage de la chair à la lumière, le salut que l'Évangile nomme la glorification en parlant du Christ, et la philokalie, la déification, en parlant du chrétien. Le sens est le même. C'est toujours la transfiguration du corps de chair qui commence dès ici-bas, dans l'effondrement de la mort à soi-même, dans l'amour fou du cœur actuel. C'est-à-dire que la déification fait corps avec la résurrection historique du Christ crucifié, mort et enseveli, et avec son apparition mystique dans le cœur priant, dans le cœur aimant, comme dans les yeux de Marie-Madeleine. Ici, il y a une double médiation du Christ et du cœur. Je crois pouvoir affirmer que le priant qui ose recevoir le Christ intérieur découvre qu'une seule chose est nécessaire: s'en tenir à la contemplation, se livrer à l'impossible et attendre. Mais attention, pas seulement, travailler aussi, au fin fond, ici et maintenant, à la possibilité de l'impossible. L'impossible. Devenir soi-même semblable au cœur du Christ. Et alors, devenir comme lui, capable d'aimer, d'un amour crucifié, d'un amour qui se laisse rejeter, qui se laisse mépriser, mais d'un amour qui continue à aimer. Le plus bel amour, mais le plus difficile. Oui, l'homme est créé pour ne plus entendre en tout que la musique du cœur, la musique de la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est en vous. Nous allons voir que bien avant la montée du Carmel de Saint Jean de la Croix, les écrits hésychastes signifiaient que le chemin vers la paix intérieure fait corps avec la vérité comme avec la vie, et que ce chemin est le Christ en personne. Nous comprenons donc aussi que la marche consciente vers cette paix n'est possible qu'aux conditions du Christ, qui ne sont pas forcément celles de ce siècle. L'immolation, l'offrande de sa vie par amour, la compassion et la glorification. ce n'est pas une voie tracée d'avance, mais c'est une réponse personnelle, au jour le jour, à la question que pose le ressuscité. M'aimes-tu ? Et une réponse aussi à l'ordre qu'il nous donne. Suis-moi. Qui répond est donc contemporain du ressuscité. Donc prier n'est pas réservé aux moines, aux religieux. Tout homme est créé pour devenir prière, pour devenir amour et paix. Prière de l'intelligence dans le lieu du cœur, capable d'absorber les cinq sens corporels, afin de se laisser aimanter et transfigurer en plein corps et en plein monde par la lumière originelle, par le Christ lui-même. La prière est une attitude existentielle, une manière d'être en profondeur. Elle n'est la propriété d'aucune religion. Peut-être y a-t-il même des mystiques athées. L'Esprit-Saint souffle où il veut. Mais le Christ unit le divin et l'humain sans les confondre ni les séparer. Prier, c'est rentrer en relation avec Dieu, un Dieu vivant qui veut faire de nous des vivants de sa vie et de son amour. Un Dieu vivant qui veut nous donner sa paix. Dieu veut se reposer en nous. Puissent ces témoins ivres de Dieu, dont je vais vous faire entendre la voix, vous en convaincre. Amen. Puisse-t-il aussi nous révéler ô combien l'être humain, dans sa totalité, jusque dans sa structure et ses rythmes corporels, est constitué pour devenir le temple de l'esprit, le tabernacle vivant. L'homme est créé pour être uni à Dieu dans tout son être, cœur, esprit, âme et corps. Ce n'est que l'homme tout entier qui peut recevoir la grâce et non telle ou telle partie du composé humain. Son âme ou son corps pris séparément. Attention, Dieu, le Christ, est venu rétablir l'unité de l'homme en lui accordant l'immortalité. Il faut bien comprendre que prier, c'est ouvrir les portes de la perception des cinq sens corporels et laisser progressivement le souffle de l'Esprit-Saint investir chacun d'eux pour qu'ils deviennent les organes de la connaissance de Dieu. Les pères de l'Église ont, dans ce sens, élaboré la doctrine des sens spirituels, c'est-à-dire des sens habités et animés par l'Esprit de Dieu. Le priant voit ses sens de plus en plus transfigurés qui le rendent capable de Dieu. Dieu n'est compréhensible que dans sa création ou son humanité. Le Christ devient donc l'objet de chaque sens de l'âme. Il se nomme la vraie lumière pour illuminer les yeux de l'âme, le Verbe pour être entendu, le pain de vie pour être goûté. Il est appelé aussi huile d'onction pour que l'âme se délecte du logos, de la parole. Il est devenu le Verbe fait chair, palpable et saisissable pour que l'homme grossier puisse saisir le Verbe de vie et s'en revêtir. Le Verbe se fait chair pour que cette chair de l'homme devienne Dieu. Donc, on voit bien qu'il convient pour chacun de nous de méditer et prier dans tous les sens et dans l'essence du sens et des sens.